Il faut attendre le 19e siècle pour voir apparaître le macaron fourré à la ganache. C'est le macaron parisien qu'on connaît aujourd'hui.
Œufs, sucre, amandes, sans oublier la garniture. Prix de revient, à peine quelques dizaines de centimes d'euros l'unité.
On a choisi à la lavande, à la fleur d'oranger, aux pétales de rose et caramel beurre salé.
Et aujourd'hui, nous allons voir les macarons, tous les petits trucs qui font que vous allez pouvoir les réussir.
On voit bien à ce qu'il y ait ce contraste entre la petite croûte qui craque lorsqu'on croque dedans, puis ensuite on est dans un monde moelleux, onctueux, c'est formidable.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Dans les boulangeries, les vitrines des grands pâtissiers, les boutiques d'aéroports et même les supermarchés, partout clignote le macaron avec ses parfums débridés et ses couleurs flashy. Le macaron a même pris le risque de devenir la pâtisserie française préférée dans le monde. Comment en est-on arrivé à un tel phénomène? Quelles sont les origines de cet emblème sucré? Et comment est-on passé des macarons de Nancy, de Saint-Jean-de-Luz, de Montmorillon au macaron parisien? Le fameux macaron à double face avec son fourrage fondant. Autant d'énigmes qu'on va résoudre avec notre historien maison dans la bande dont on va déguster. C'est Loïc Bienassi, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'Université de Tours, et vous avez, bonne nouvelle, de vraies révélations à nous faire sur ce macaron. Vous travaillez sur le sujet depuis un moment.
Oui, c'est vrai que ça réclame pas mal d'enquêtes parce que beaucoup de légendes circulent, d'approximations, donc bon, on va essayer de démêler tout ça.
Et vous avez même, cher Loïc, donné de votre personne,
toujours,
puisque vous avez participé au grand banc d'essai que nous avons organisé la semaine dernière avec l'équipe dont on va déguster, l'équipe aussi de mon émission Très Très Bon sur Paris Première, pour désigner, attention, les meilleurs macarons parisiens. Nous allons vous révéler notre palmarès dans notre émission. Attention, suspense. Mais on peut déjà dire que dans ce palmarès, un couple se distingue. Sur le front du macaron, nous sommes ravis d'accueillir Mélanie et Arnaud Maté. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Très bien, merci.
Bon,
vous.
On peut le dire, vous situez très très fort sur nos podiums macarons dans plusieurs parfums. Et oui, vous avez une boutique à Cernay-la-Ville dans les Yvelines. Vous avez également une autre boutique rue de Courcelles, Paris 17e, c'est bien ça?
Oui.
Vous défendez depuis une dizaine d'années avec succès l'excellence du macaron. On va essayer de vous estorquer quelques-uns de vos secrets. Sur le macaron, ça vous va comme programme?
C'est parfait, avec grand plaisir.
Et vous nous avez apporté évidemment vos macarons.
Tout à fait, on vous a apporté un assortiment de toute notre collection de macarons.
Et il y en a quand même quelques-uns. Pour éviter que notre verre tourne en rond avec le macaron, on appelle notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnès, à la rescousse. Bonjour Jérôme.
Bonjour François Régis, bonjour à tous.
Alors, dans le verre?
Nous sommes enjoués aujourd'hui.
Ah, enjoués, ah pas mal, monsieur est très en forme. On aura également rendez-vous dans l'émission avec l'ami Mathieu Conquet, c'est le copain musique de la bande dont on va déguster. Bonjour Mathieu.
Bonjour François Régis, bonjour à tous.
À deux jours de la fête de la musique, vous avez pour nous cuisiné une star du rock britannique très très penchée sur la chose.
Un musicien qui est aussi un chef, et je vous donne juste un indice.
Oui.
Le nom du groupe, c'est le nom d'un archiduc.
Ah, et voilà, ben écoutez, on va passer un petit moment avec lui tout à l'heure. On vous révèle l'identité de cette star du rock britannique. Vous l'aimez ou vous le détestez, ce fameux macaron? Réagissez en direct en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien en cliquant sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver notre émission avec tous ses contenus et tous ses podcasts, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Je me suis amusé à taper origine du macaron sur un moteur de recherche et je suis tombé évidemment dans quasiment tous les cas sur une personnalité qui aurait rapporté ce biscuit de son Italie natale à la Renaissance. Je veux évidemment parler de Catherine de Médicis, arrivée en France en 1533 pour épouser le futur roi de France, Henri II. Alors c'est vrai que très souvent, cher Loïc Bienassi, quand on a un doute sur l'origine d'un légume, d'une spécialité sucrée, on a cette fâcheuse tendance de le mettre ou la mettre sur le dos de Catherine de Médicis. Elle aurait aussi rapporté l'artichaut, le haricot, le melon, le sabayon, la glace, le sorbet, le chou à la crème, la frangipane, même la fourchette. Et tiens, elle aurait rapporté également d'Italie donc ce macaron. Qu'en est-il ?
Alors c'est sûr qu'elle a le dos large, Catherine de Médicis, parce qu'on lui prête à peu près tout. On lui prête même finalement d'avoir réinventé la cuisine française, puisqu'elle serait venue avec des cuisiniers, des pâtissiers. Et en fait c'est simple, tout est faux. Dès qu'on lit quelque chose sur Catherine de Médicis, lié à la cuisine, tout est faux, et le macaron compris, évidemment, parce que, on va en discuter, mais le macaron a une histoire, en fait, d'une certaine manière, plus récente, et alors certainement le macaron parisien, et Catherine de Médicis, en tout cas, pour le dire très simplement, n'y est pour rien.
D'accord, voilà, donc déjà, ça commence par...
C'est réglé.
On remet le clocher au milieu du village, hein, c'est ça, et on rétablit la vérité historique. Est-ce que l'Italie a pour autant quelque chose à voir avec le macaron ? Dans la façon de prononcer macaron, on peut entendre également le nom de macaroni, maccheroni. Par ailleurs, l'amande, qui est l'un des aliments, l'un des ingrédients principaux de ce biscuit macaron, effectivement, est très travaillé aussi.
Alors,
de
clairement,
l'autre côté des Alpes.
Tout à fait, oui, oui. Alors, clairement, en fait, j'ai envie de dire, l'apport de l'Italie par rapport au macaron, c'est d'abord le nom, justement. Le mot macaron. Parce que, à la Renaissance, enfin, au Moyen-Âge, les macaronis sont différents types de pâtes. Il y a des débats autour de l'étymologie exacte, de l'origine du mot. Quoi qu'il en soit, au Moyen-Âge, on utilise le mot macaroni pour qualifier différents types de pâtes en Italie. Et le mot va passer en français, puisque le macaron, c'est la traduction du mot macaroni pour qualifier des pâtes.
Mais il n'y a pourtant aucun rapport entre un biscuit d'un côté à base d'amandes, de blanc d'œuf, de sucre, et de l'autre, les fameux macaroni ou macaroni qui sont des pâtes salées.
Il y a peut-être un rapport, en fait. C'est-à-dire que on a ce mot macaron qui qualifie des pâtes en France, au moins jusqu'au début du XVIIe siècle. Ça, c'est sûr, on a des occurrences assez claires. Et par contre, le mot macaron pour qualifier des gâteaux en France, on le voit apparaître pour la première fois chez Rabelais en 1552 dans le Quart Livre. On sait qu'il parle d'un gâteau, mais on n'a pas de recette. La première recette, il faut attendre, enfin, la première que je connaisse, 1653 dans le Pâtissier français, un traité anonyme. Et là, on a une recette de macaron et on a peut-être l'explication. Comment le mot est passé de l'italien au français? Parce que on a donc cette recette qui précise qu'il faut une livre d'amandes, une livre de sucre en poudre, etc., etc. Et quand cette pâte sera prête, couchez-la sur du papier blanc par morceaux et que ces morceaux soient un peu longs en forme de macaron. Donc je pense que c'est une question de forme, c'est-à-dire que la forme que l'on prêtait aux pâtes, macaron, les pâtes italiennes, pasta, eh bien, c'est... On a ces gâteaux qui ont la forme de ces pâtes, et donc le mot aurait comme ça, serait passé de la pâte au macaron gâteau.
Sachant que ces macaroni, ces pâtes italiennes à l'époque, avaient plutôt la forme de ce que l'on appelle aujourd'hui un gnocco ou des gnocchi.
Ça pouvait, en fait, je pense que ça devait être assez variable, et c'était une des formes possibles, en longueur, ça c'est sûr, en tout cas. Donc on peut supposer que ces premiers macarons avaient cette forme-là allongée.
Et alors, tous ces macarons qui ont peuplé nos belles provinces en France, il y a des macarons un peu partout, où qu'on se balade, de la Lorraine jusqu'au Pays Basque, en passant par Montmorillon, là on est du côté de Poitiers. C'est vrai que le macaron a vraiment essaimé un peu partout, aux quatre coins de France. Depuis, à quand remonte ce phénomène ?
Alors, en fait, il y avait un ouvrage qui était paru, je pense, au début des années 90, qui avait recensé 33 villes qui faisaient du macaron un peu leur grand produit phare en France. Et en effet, un peu partout, Saint-Jean-de-Luz, Nancy, enfin, même parfois des plus petites villes qui ont vraiment ce macaron en étendard, j'allais dire. En fait, souvent, ces villes créent des légendes, là encore, et nous proposent des origines 17e siècle, même parfois même 8e siècle. Enfin, là, on a vraiment tout un tas de belles histoires. La réalité, c'est que la plupart de ces macarons se sont installés au 19e siècle, en fait. Sont devenus des spécialités, même parfois de manière encore plus récente, milieu du 20e siècle. Donc c'est une histoire finalement relativement courte. C'est-à-dire que le macaron, c'est un produit de la biscuiterie française, ce que font les pâtissiers, et certains pâtissiers localement en ont fait leur spécialité, et la ville en a ensuite fait sa propre spécialité.
Mais alors comment ils sont passés d'une région à l'autre ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est par le fait que ces macarons étaient des gâteaux de voyage, donc faciles à transporter ? qui a fait que le savoir-faire finalement s'est répandu un peu partout et sur une période assez courte.
Alors peut-être c'est surtout tout simplement, je pense qu'à partir du XVIIe siècle, ça appartient au répertoire de la biscuiterie française. Et j'ai envie de dire, tout pâtissier dans toutes les villes de France faisait des macarons. Mais alors selon des recettes variables finalement. Parce
ils
que...
sont plus ou moins durs, enfin plus ou moins secs, plus ou moins moelleux. Par contre, ils ont en commun évidemment, c'est ça qui fait qu'ils s'appellent macarons, de la poudre d'amande, du sucre, du blanc d'œuf. Tenez, les macarons,
c'est ça,
qui sont peut-être bien les plus célèbres, en tout cas qui ont vraiment connu une forte popularité tout au long du 19e siècle et encore aujourd'hui, ce sont ceux de Nancy. Et Charles Moncelet, écrivain gastronomique, dans Récit de table en 1874, écrit la chose suivante: la légende des sœurs macarons remonte à la première révolution, là on serait vraiment à la fin du 18e siècle, lors de la dispersion avec la révolution des ordres monastiques. À cette époque, quelques religieuses effarées trouvèrent un asile dans une maison bourgeoise de la rue de la Hache à Nancy, et pour payer leur hospitalité, elles se livrèrent avec frénésie à la confection d'innocents et succulents macarons dont la renommée se répandit bientôt dans tout Nancy et au-delà. Les macarons de la rue de la Hache sont toujours, au dire des gourmets, aussi bons que par le passé. Ils sont d'une belle largeur, d'un beau grain doré, ils s'attachent délicieusement aux dents. Comme quoi ça peut être aussi un peu chewing-gum.
Vraiment, c'est très variable. Il y en a où on va intégrer, par exemple, des blancs en neige. Enfin, il y a différentes recettes. Donc, en effet, on a des produits, finalement, avec cette recette simple, mais 1000 variations. Et quant au macaron de Nancy, cette histoire semble assez vraie, en fait, qui daterait de la fin du XVIIIe siècle. J'avoue que j'ai jamais creusé avec
Origine monastique de certains macarons.
Oui, tout à fait. La réputation, clairement, on commence à parler des macarons de Nancy, je pense, à partir des années 1830-1840. Et dès ce moment-là, là, on évoque cette histoire des sœurs macarons, puisque c'est le surnom qu'on leur a donné, qui auraient commencé leur production à la toute fin du 18e siècle.
Mathieu Conquet veut la parole. Je suis sûr qu'il va faire la promotion de son macaron préféré.
Oui, d'ailleurs, il faudra parler, parce que c'est un macaron qui n'a pas exactement la même recette. Non, mais il n'a pas la même recette que les macarons qu'on va déguster et qu'on voit ici. C'est ceux qu'on trouve dans le Pays Basque. Moi, vous êtes en train, et Loïc bien assis, vous êtes en train de me briser le cœur. Moi, j'ai grandi avec cette légende, qu'on raconte beaucoup à Saint-Jean-de-Luz, en 1660, le mariage, la rencontre de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, Mazarin arrange tout ça, on se rencontre à mi-chemin, et donc, quand on arrive à Saint-Jean-de-Luz, sur la place, vraiment, on voit, il y a la maison à dents. Alors, il y a plusieurs maisons, il faudrait toutes les citer. Voilà,
mais il y a des maisons concurrentes.
Je vais pas choisir. Mais il vous présente un macaron, bon, qui est pas du tout, c'est une seule face, c'est un gâteau à l'amande, c'est très moelleux, c'est irrésistible.
Et c'est ça, vraiment délicieux.
Vous dites que c'est une légende.
Oui, je suis désolé. D'ailleurs, j'avais exprès de pas citer de nom.
Loïc, ça dit une chose, c'est que souvent, ces maisons, que ce soit des biscuiteries, des pâtisseries, ont fait leur propre storytelling.
Ah, clairement, dès le 19e siècle. Hein, et il y aurait d'autres exemples, à Cormery, pour en citer, ou là, tout à l'heure, je parlais, encore une fois sans citer, mais qui font remonter à des moines au 8e siècle. Et voilà. Donc, c'est, à ma connaissance, la légende des macarons de Saint-Jean-de-Luz, c'est à partir du début du 20e siècle qu'elle commence à prendre forme et que tout de suite, on a invoqué cette noble origine.
Mais c'est plausible ou pas?
Non.
Mathieu est en PLS.
Ça, oui, c'est ça. Bon, ça l'empêchera pas, je pense, de manger son poids par an en macarons Saint-Jean-de-Luz. Mélanie et Arnaud Maté, est-ce que dans ces macarons provinciaux, et l'adjectif chez moi provincial est vraiment n'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est les macarons de nos provinces. Est-ce que vous avez une préférence ou vous ne les connaissez pas forcément?
Bah moi je suis assez d'accord, le Saint-Jean-de-Luz j'aime beaucoup,
ouais.
Parce qu'ils sont vraiment très moelleux effectivement et c'est ce que j'aime en tout cas dans un macaron traditionnel.
C'est bien. Et
oui, pareil, en général, on mange à peu près la même chose. Mais ouais, c'est pareil. On aime bien le moelleux, c'est un petit côté réconfortant.
Dans un instant, on va passer aux macarons parisiens, dont les vôtres, ceux de Jardin Sucré. Attention, très très forte sensation en perspective. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Mathieu Bérini. C'est Marion Philippe qui nous a aidé à la préparer. On croque à pleines dents dans le macaron parisien, juste après Loni avec le titre Comme la fin du monde. Choisi par Djoubaka avant la fin du monde, quelques macarons, hein, ça fera pas de mal. Bon appétit sur France Inter.
Souffle.
quand j'ai appris à faire des macarons, à l'époque, on mettait deux coques de biscuits, comme on fait aujourd'hui, avec un petit peu de garniture, juste pour coller les coques de biscuits. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi j'aime pas les macarons? Je trouvais que ça manquait de goût. Il fallait beaucoup plus de garniture. C'est marqué en goût. On voit bien à ce qu'il y ait ce contraste entre la petite croûte au-dessus du macaron qui craque lorsqu'on croque dedans, puis ensuite, on est dans un monde moelleux, onctueux, et c'est formidable.
Il faut rendre au grand Pierre Hermé ce qui lui appartient, avoir, alors, non pas inventé le macaron parisien comme on le raconte parfois, mais avoir relancé sa carrière en enrichissant considérablement sa garniture. En 2014, dans l'introduction de son livre Macaron aux éditions de La Martinière dans lequel je me suis replongé, on apprend que Pierre Hermé a appris à faire des macarons dans la maison Le Nôtre. En 1976, on était rue d'Auteuil, hein, dans le 16e arrondissement, pas très loin de la maison de la radio. À partir de 1986, à la tête de Fauchon, il élabore de nouvelles saveurs. Rose, citron, pistache et caramel sont d'énormes succès, hein, au milieu des années 80. Et c'est ensuite rue Royale, à la tête de la création pâtissière de La Durée, à partir de 1997, que Pierre Hermé développa le macaron avec là quand même, alors là, plus d'une centaine de saveurs différentes. Et puis ça devient un succès planétaire, international, dans ses maisons de New York, de Tokyo, et même en 2005, il crée le jour du macaron. Mélanie et Arnaud Maté, que représente pour vous Pierre Hermé?
C'est le plus grand pâtissier du monde déjà d'une part, et puis c'est quelqu'un qui a fait rayonner la pâtisserie et le macaron dans le monde entier, quoi. Je pense que sans Pierre Hermé, nous déjà on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, et puis il y aurait pas tout cet engouement autour du macaron.
Mélanie.
Ouais, c'est en fait Pierre Hermé a remis au goût du jour certaines pâtisseries comme voilà le macaron et bien d'autres, et a permis aussi de moderniser et de faire évoluer dans le bon sens la pâtisserie.
Absolument, et à la tournée vers l'excellence, et je peux vous annoncer, on y vient, voici notre palmarès du macaron, que Pierre Hermé reste encore en très très bonne position, c'est l'un des rois du macaron dans notre dégustation à l'aveugle. Nous avons donc testé 17 adresses parisiennes sur 4 parfums, pistache, vanille, chocolat et framboise, les 4 parfums qui ont clairement le plus de succès et qui sont les plus vendus, hein. Et pour chacun de ces parfums, nous avons établi un podium, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Eh bien, Pierre Hermé est dans le podium sur 3 parfums sur 4, comme une certaine enseigne Jardin Sucré. C'est pour ça qu'on vous a invité, tout a été fait à l'aveugle. On a testé ça avec de nombreux experts, dont Jean-Philippe Marsan qui est présent dans notre studio aujourd'hui. Jardin Sucré, attention, votre enseigne, numéro 1 en parfum pistache. Numéro 1 en parfum vanille, ce qui est quand même une sacrée performance. Et numéro 3 en chocolat. Ouais, derrière Pierre Hermé pour le chocolat. Tenez, vous avez le macaron chocolat de Pierre Hermé qui est arrivé numéro 1 de notre banc d'essai, donc dans le parfum chocolat. Goûtez-le et Mélanie, un petit commentaire. Ah, Mathieu, il l'a déjà fini.
Bah, ah. Le macaron de Pierre Hermé, nous déjà on adore la légèreté qu'on peut retrouver dans ces macarons. Mmh. Pareil, ils ne sont pas trop sucrés. Le chocolat est ultra bon. Il est très cacaoté. Il y a un peu amer. Et, moi, ce qu'on recherche dans un macaron au chocolat, en fait, on a tout.
C'est voilà. Ça. Alors, oui.
C'est un
Arnaud,
Mathé. Je vous dis juste sur ce que dit Mélanie. En fait, c'est vraiment le macaron au chocolat particulièrement. Même la coque, c'est un nuage, quoi. C'est ultra fondant, quoi.
Jeu de texture assez hallucinant. Très, très bon. En effet, Mélanie et Arnaud Maté, on peut le dire, vous êtes le nouveau couple sacré et sucré sur la scène macaron. Vous étiez quasiment inconnu dans le monde de la pâtisserie il y a quelques années. Comment on commet un tel hold-up? Que s'est-il passé, puisque vous n'êtes pâtissier que depuis une petite dizaine d'années?
Oui, alors, on a un parcours un peu spécial. Effectivement, on est plus ou moins autodidacte. Mm-hmm. Arnaud, les 100%. Moi, j'ai quand même passé un CAP en un an, mais bon.
Arnaud, 100% autodidacte.
Ouais, 100% autodidacte. Je suis sorti de l'école et j'ai rejoint Mélanie, en fait, qui passait son CAP, mais
parce que j'ai passé mon CAP un peu avec Arnaud, on va dire, où, voilà, j'ai fait que 2 mois dans une boulangerie-pâtisserie et ça s'est très mal passé, donc j'ai arrêté. J'ai passé mon CAP, je me suis entraînée avec Arnaud. Mm-hmm. Donc, on a appris à faire de la pâtisserie ensemble. Et je pense que tout ça, c'est, on va dire, le fruit de notre travail depuis plusieurs années.
Après, c'était très très compliqué au début. Rejoint Mélanie en fait sur le CAP. Ça m'a beaucoup plu parce que moi, je suis aussi issu d'une famille qui était vachement dans la cuisine. Mais on m'a toujours dit, mets pas un pied en cuisine, c'est un métier, c'est l'enfer, quoi.
Ouais.
Mon grand-père était chef pour un milliardaire très connu dans les années 80. Il m'a dit c'est trop dur, fais pas ça. Mais du coup bah j'ai essayé une fois de faire des éclairs et j'ai adoré. Et petit à petit en fait on a
extraordinaire.
On a travaillé, on a lu, on a acheté beaucoup de livres, on a beaucoup lu et puis
dont ceux de Pierre Armé d'ailleurs.
Dont ceux de Pierre Armé effectivement ouais. Puis on s'est entraîné quoi. Et puis on a travaillé, on a ouvert notre première boutique dans notre petit village donc d'où on est natif, Cernay-la-Ville dans le 78. Il y a 1500 habitants.
C'est ça. On est en pleine vallée de la Chevreuse.
Vallée de Chevreuse exactement. Et puis bah c'est vrai qu'au début personne croyait en ce projet parce que 1500 habitants, tout le monde disait mais économiquement votre truc c'est impossible quoi, il y a...
Puis en étant sorti de nulle part.
De si nulle part en plus, ouais.
Oui.
Donc ça c'était en 2012, il y a exactement une décennie.
10 ans pile, ouais.
C'est... Et puis ensuite, vous avez gravi les marches et comment vous êtes désormais reconnu par de très nombreux professionnels qui du coup viennent un peu en secret, j'en connais quelques-uns, je ne citerai pas de nom, aller piquer, goûter quelques... Vous savez, ils envoient un petit commis, va m'acheter un millefeuille, quelques macarons là-bas, tu me prends tous les parfums. Et puis c'est comme ça aussi que le bouche à oreille s'effectue. Vous avez également une boutique à Paris dans le 17e arrondissement.
Tout à fait, rue de Courcelles. Du coup, ça fait 5 ans.
Cette année, ouais.
Exactement. Et votre secret, ça paraît bête comme ça, mais c'est de sélectionner des matières premières de très haute qualité, de proposer systématiquement de la pâtisserie fraîche, et ça concerne également votre travail sur les macarons.
Ouais, tout à fait. Alors, au-delà de la matière première, c'est aussi, je pense, notre simplicité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'est jamais pris la tête pour faire un gâteau, un macaron. On fait avant tout ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime manger. Mmh. Et après, on a la chance que les gens nous suivent un peu, même dans nos délires un peu farfelus des fois.
Parce qu'on marche très à l'instinct, en fait. On fait en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on a envie sur le moment, ce qu'on veut. Donc oui, les gens nous suivent et c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que...
On est très loin du petit labo créatif où, comme on va dans grande maison, où on se penche pendant 35 heures par semaine à chercher, se creuser la tête. En fait, nous, on va dans des petits endroits, des boui-boui, des restos. Ah, c'est super ça, on goûte des produits, on aime, on se renseigne. On est un peu un chasseur de tête de produits, qui a un copain à nous qui nous trouve un peu, qui nous source les produits qu'on veut. Mais effectivement, la matière première, oui, c'est le plus important dans le gâteau, quoi.
Et sur le macaron, vous avez une démarche très particulière, c'est que, assez curieusement, par rapport à tous les macarons que l'on trouve dans des grandes enseignes chez La Durée, allons-y, hein, pour ne pas les nommer, puisqu'ils se revendiquent, avec quand même pas mal d'abus, comme les rois ou les inventeurs du macaron, mais ça, on y reviendra sans doute avec notre ami Loïc Bienassis. Les vôtres, ils sont pas du tout, ils n'affichent pas de couleur criarde, ils sont au contraire plutôt dans les tonalités pastel. Est-ce à dire que vous renoncez à certains additifs?
Alors en fait, donc il y a 10 ans, effectivement, le macaron, c'était pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup moins pastel, c'était vraiment à la mode de mettre beaucoup, beaucoup de colorants.
On a réduit carrément fluo. Hein.
C'était fluo, ouais. On a réduit considérablement les colorants, les additifs depuis maintenant 8 ans, je crois. Et là, en fait, depuis 2021, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle des denrées alimentaires. En fait, ce qui remplace le colorant, c'est vraiment un ingrédient. Donc il n'y aura plus de E dans les macarons, mais c'est vraiment des ingrédients à base de citron, de betterave pour les différentes couleurs. Alors ça se travaille pas du tout pareil, c'est assez long à mettre en place, parce que les quantités sont beaucoup plus importantes.
C'est une entreprise française qui vous fait ça?
Ouais, tout à fait, c'est PCB Création, donc ils sont situés à Benfeld, et en fait ils appellent ça les denrées alimentaires, quoi. Et en fin de compte, par exemple, pour un macaron jaune, c'est à base de citron, je sais plus exactement la recette. Et par
on quitte la catégorie des additifs, donc comme vous le dites, pas de nom codifié avec des E, 260, etc. Là, on est vraiment dans un ingrédient.
C'est un ingrédient.
Autre, un peu comme les autres, c'est-à-dire le blanc d'œuf ou la poudre d'amande.
Exactement, c'est un ingrédient, ouais.
Incroyable.
C'est un ingrédient qu'on rajoute, en fait. Ils ont fait c'est même pas du colorant naturel où là, ça reste en E, c'est vraiment... à partir d'ingrédients qui sont desséchés et qui sont réduits en poudre. Et on peut faire ça, mais en fait, c'est long à mettre en place, ça change la texture du macaron, ça change le goût même parfois. À l'odeur, quand on les sort, ça peut sentir. Donc c'est beaucoup de choses à revoir.
On va, vous allez nous faire entrer dans la coulisse justement de votre macaron, parce qu'il y a pas mal de légendes urbaines qui circulent autour de la fabrication du macaron. On dit qu'il faut les congeler, on dit qu'il faut créer une osmose, on dit qu'il faut les maturer. Tout ça, c'est des questions auxquelles on va évidemment répondre. Mathieu?
C'est la baston, là, je peux vous dire, les auditeurs qui nous écrivent. Ah. Déjà, ils se disputent beaucoup sur le meilleur, c'est en Bretagne, en Côte d'Armor, à Saint-Émilion, à Montmorillon, à Pariès. Enfin, c'est la maison.
Alors là, on parle des macarons provinciaux. Hein.
Voilà. Il y a Amiens, il y a Boulay-en-Moselle, Cormeray-en-Touraine. Mais il y a une question. Est-ce que le macaron peut se manger chaud ou tiède? On le sert toujours froid.
Alors, oui, on peut le manger chaud ou tiède. Et il y a un pâtissier parisien d'origine japonaise qui le fait très très bien. C'est Sadaru Aoki.
Ouais.
Et en fait, au salon du chocolat, il propose un truc exceptionnel. Je sais plus le nom.
C'est mis dans. Non, mais c'est incroyable. Hein. C'est avec. Je sais pas si vous connaissez. C'est le macaron au chocolat qui est enveloppé.
Absolument.
Mais comment est-ce qu'il fait? Ça veut dire que c'est craquant et c'est chaud à l'intérieur.
En fait, Il a comme des moules à gaufres, si vous voulez. Il a préparé ses macarons garnis au chocolat, ouais. Un petit peu plus gros, quoi. Et il va mettre un petit peu d'appareil à gaufres dans son moule à gaufres. Et il va cuire l'appareil à gaufres avec le macaron. Et en fait, on a un truc qui est tiède.
C'est coulant chaud, à l'intérieur, c'est incroyable. C'est
parce qu'il est vrai qu'il y a quelque chose de contre-intuitif. On dit souvent qu'il faut manger un macaron lorsqu'il est un peu froid. Ça a tendance à figer un tout petit peu les textures. Mais il est vrai qu'en même temps, le froid, vous êtes bien placé pour le savoir aussi, Jérôme. Ça a quand même tendance à bloquer un peu les
arômes.
Les saveurs et les arômes.
Oui, les arômes, ça, quand c'est vrai, faut vraiment. C'est un peu une ligne de crête, la température de dégustation d'un macaron, un peu comme avec le vin. Il y a peut-être un peu plus de marge dans les vins. Dès qu'on est trop froid, on bloque tous les arômes. Donc,
On continue à parler de vos macarons, on continue à la déguster. Loïc Bienassi va nous révéler aussi, évidemment, les origines de ce fameux macaron parisien à double face. Mais tout de suite, c'est Mathieu Conquet. Des platines au petit plat, eh bien, c'est sa chronique.
Sur France Inter, on va déguster.
J'aime beaucoup visiter les magasins, les pâtissiers avec les macarons. Moi, j'adore les macarons pistache. Ça, c'est formidable pour moi. It reminds me of those first
ça me rappelle notre première tournée ici, avec Franz Ferdinand. On se sentait si sophistiqué, si délicat à manger ces macarons dans les rues de Paris.
Bon, on cherchait une star britannique mystère. On a quand même une petite indication avec le nom de son groupe, Franz Ferdinand. On sait qu'il est écossais, qu'il adore Paris. Il parle quelques mots de français. Et il croque régulièrement des macarons à Paris.
Il a un nom grec, Alex Kapranos. C'est le chanteur et guitariste d'un groupe calédonien. Calédonien, c'est la Calédonie, c'est l'Écosse. L'ancien nom de l'Écosse. Ah oui. Ben voilà, bien sûr.
C'est pas la nouvelle Calédonie.
Eh ben non, c'est l'ancienne. Voilà. Et son groupe porte le nom d'un archiduc austro-hongrois, Franz Ferdinand de Habsbourg. Vous savez, celui qui a été assassiné en 1914. Ça a précipité toute l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Bref, ben, il est chargé d'histoire et de culture, ce chanteur de Franz Ferdinand. Mais il est aussi chargé de cuisine. Parce que Alex Kapranos, figurez-vous, a été chef. Et il l'a raconté dans un livre. Il a tout vécu en cuisine, le pire, le meilleur. Il a commencé à travailler à 18 ans chez McTavish Kitchen. Visiblement, il a tout vécu là-bas, le pire comme le meilleur. Mais il a même perdu sa virginité. Il a été sommelier, chef de cuisine, livreur de plats indiens. Et quand il est parti en tournée avec Franz Ferdinand, le quotidien anglais The Guardian, lui a proposé de tenir une chronique culinaire pendant sa tournée à travers le monde. Et c'était une très très bonne idée. Ça a donné un livre. Franz Ferdinand, la tournée des Grands Ducs, c'est paru en 2007 en Angleterre. Ça a eu un très joli succès. Elvira, vous en avez parlé en 2015.
Absolument.
Quand le livre a été traduit en France. Et vraiment, c'est un bonheur. Hein, c'est un petit livre très réjouissant. Il raconte que la meilleure préparation pour lui, pour partir en tournée dans le monde avec un groupe de rock, ça a été en fait de travailler en cuisine à Glasgow. Je vous cite juste ce passage. On maniait les couteaux, la graisse brûlante et les brocolis à quelques centimètres les uns des autres dans une petite cuisine étouffante et sans fenêtre en deux services de 9h à 1h du matin. On s'arrosait le gosier de cognac de cuisson et on dénigrait les serveurs. Partager un bus oppressant pendant une tournée comme nous le faisons en ce moment, c'est plutôt facile, même plan-plan en comparaison.
Ah oui, d'accord.
Ça vous donne un peu le ton.
De l'ambiance rock'n'roll dans certaines cuisines.
Voilà, Alex Kapranos, il est vraiment aussi drôle qu'élégant. Et du coup, je lui ai demandé, évidemment, d'abord, quel lien il voyait, comment il pouvait résumer ce lien entre cuisine et musique, entre ces deux disciplines dans sa vie.
I think there are so many parallels.
Il y a tellement de parallèles à faire entre les deux.
I think my approach to music and to cooking.
Mon approche de la musique et de la cuisine est la même.
My favorite way to cook.
Ma façon préférée de cuisiner.
Is to go either to the market.
C'est d'aller au marché ou dans mon jardin si je suis chez moi en Écosse.
And see what is there.
Et voir ce qu'il y a.
Grab it.
Je prends quelque chose.
Take it into the kitchen.
Je le rapporte à la cuisine et je trouve quoi faire avec.
It's the best way to cook.
C'est la meilleure façon de cuisiner. Prendre les bons ingrédients, ça permet de trouver ce qu'on va faire.
And it's the same with.
Et c'est pareil quand on écrit une chanson.
You see what's around about you in your life. What has been.
On prend ce qui est autour de nous, ce qui nous affecte, ce qui nous émeut, et on fait une chanson là-dessus.
J'ai visité beaucoup de pays quand je jouais avec ma groupe. C'est un privilège pour moi pour visiter les cuisines de beaucoup de pays de le monde. Parce que le caractère de les pays, c'est dans la nourriture de les pays.
Alors comment est-ce qu'on peut comprendre l'Écosse à travers ses plats? Je sais pas, c'est le haggis, par exemple?
Ah oui, vraiment. L'haggis, c'est la nourriture des pauvres. C'est comme le saucisson en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou le boudin noir, quelque chose comme ça. Alors, la noblesse, ils mangent les biens cuits de la viande. Mais what is left over?
Ce qui reste après,
is put into a bag and
on le met dans une poche et on le fait cuire pour les pauvres. C'est ça le haggis. C'est drôle parce que souvent les meilleurs plats sont les plats de pauvres. Les meilleures saveurs sont dans ces plats.
Quelle serait la ou les spécialités écossaises qu'il faut absolument essayer une fois dans sa vie?
There are many great specialties in Scotland.
Il y a tellement de bonnes spécialités écossaises.
Les fruits de mer d'Écosse, c'est formidable. Especially
spécialement
the seafood from the west coast
les fruits de mer
Scotland.
De la côte ouest.
Best in the world.
Ce sont les meilleurs du monde pour moi.
When I used to work as a chef,
quand j'étais chef cuisinier, je cuisinais beaucoup de fruits de mer.
I have very strong memories of
je me rappelle très bien
cooking
de cuisiner les langoustines, d'ouvrir les huîtres,
the scallops,
cuire les coquilles,
Saint-Jacques.
Les Saint-Jacques.
And I would say it doesn't matter how you prepare
et là, en fait, peu importe comment vous les préparez, ce sont les ingrédients qui sont importants. Ces fruits de mer de la côte ouest, c'est le joyau de la couronne écossaise.
Alors, ce qui compte, c'est aussi comment on mange, mais où on le mange. Ça, c'est vrai d'ailleurs aussi pour les salles de concert, c'est important. Mais vous racontez dans votre livre, par exemple, que vous mangez des blinis à Saint-Pétersbourg, dans les anciens bureaux du KGB, que vous avez vécu un moment intense avec un oursin dans la salle qui a servi de décor au massacre de Kill Bill.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a eu des cadres, des salles récemment qui vous ont inspiré par leur environnement, leur histoire?
Well, you know, the last 2 years,
ah, ces deux dernières années, c'était tellement frustrant de ne pas pouvoir sortir.
Mais j'adore les restaurants avec beaucoup d'histoire. Places like Chartier.
Des endroits comme chez Chartier.
It's incredible to go into these places and to see that they have
c'est incroyable d'imaginer que presque rien n'a changé depuis tant d'années.
There's also a place called chez Julien.
Il y a aussi chez Julien.
I think it was built.
Ça a été construit, je crois, en 1901.
Like the decor is still
et le décor intérieur, Art Nouveau, n'a pas changé.
Places,
quand j'entre dans des endroits comme ça,
like
c'est comme si je plongeais dans le Paris fin de siècle, dans une ville qui n'existe plus.
Alors, dernière question, Alex Capranos. L'entente cordiale entre cuisine française et calédonienne, qu'est-ce que ce serait?
Ah, je connais. So, en Écosse aussi, il y a beaucoup de boudin noir. So, alors, je veux proposer un repas avec les Saint-Jacques d'Écosse et le boudin noir de la France. C'est parfait. Et bon appétit.
Voilà. Génial. Saint-Jacques d'Écosse, ça vaut des points en plus.
Ah,
hein.
C'est pas mal du tout.
Avec le black pudding à la française, nous, on est partant pour un accord terre-mer.
Ouais, je vous recommande son livre, donc Franz Ferdinand, La tournée des Grands-Ducs, c'est aux éditions du Rouergue, et merci Benjamin Riquet qui a fait la traduction. Alors, Franz Ferdinand, il fête cette année les 20 ans de la sortie de leur premier album, et ils sont à l'affiche de la fête de la musique mardi prochain à l'Olympia sur France Inter.
Et oui.
Concert vraiment extra. Il y aura aussi Pomme, Benjamin Biolay, Angèle, Parcells et Franz Ferdinand. C'est à suivre en direct à partir de 20h jusqu'à minuit sur France Inter. Je vous propose qu'on écoute le nouveau morceau qui est en playlist en ce moment sur France Inter.
Carrément, surtout qu'il met la pêche.
Qui s'appelle Curious.
Tension and to left on a dark stage. I was
Curious. Oula, ça met la pêche, hein.
Pas mal.
De Franz Ferdinand. Ouais. On va livrer quelques macarons jardin sucré, non? À Alex Caprano, s'il a l'air.
Avec plaisir.
Surtout parfum pistache, je pense que là il va décoller. Je vais apporter ça mardi prochain. Alors.
Avec un peu de chance, il vous fera une chanson. On célèbre le macaron en ce dimanche avec notre historien Loïc Bienassi et notre couple de pâtissiers Mélanie et Arnaud Maté qui vraiment font une espèce d'OPA sur la scène macaron avec des parfums délicieux, des façons de faire surtout et des textures absolument incroyables et un prix en plus. Défiant toute concurrence, oserais-je dire que vous êtes dans le bas de la fourchette. 1,90€ le macaron chez vous pièce, compte tenu du prix de la vanille, de vos matières premières exceptionnelles, c'est une performance. Pierre Hermé est à 2,50€ pour le macaron pistache, le macaron chocolat, le macaron vanille. Carette, qui figure également dans notre palmarès, 2,30€. Ah, il y a 1,90€ aussi pour la grande épicerie qui fait très bon macaron et qui, dans notre palmarès, se situe à la deuxième marche du podium, c'est-à-dire médaille d'argent dans le parfum chocolat et la médaille de bronze dans le parfum framboise. Pour la grande épicerie, vous validez? Enfin, je vous demande pas forcément un avis sur la concurrence, mais...
On n'a pas goûté, là, je viens de goûter Angelina à la framboise, il est très très bon.
Et ben Angelina à la framboise, number one.
Et ben c'est... Mmh.
Voilà. C'est mérité.
Ouais. Ouais, c'est mérité, la confiture
est... de la rue de Rivoli. Mmh. Et effectivement, ouais, ils font un très très bon travail. Alors, on se tourne à nouveau évidemment vers Loïc. Vous avez enquêté sur l'histoire du macaron. Comment on passe de ces macarons... régionaux, légèrement rustiques, de couleur marron, plus ou moins secs ou moelleux, plus ou moins réguliers d'ailleurs dans leur forme, à ce petit macaron parisien qui ressemble à un hamburger sucré en quelque sorte, avec ses couleurs un peu plus, un peu plus vives, hein, on va dire, et surtout ce petit fourrage entre deux coques.
Alors. Si on regarde des traités de pâtisserie début XXe siècle, on trouve mentionné des macarons de Paris. Et clairement, en effet, là, le macaron de Paris n'a rien à voir avec le macaron qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est le fruit d'une histoire, mais d'une histoire du XXe siècle, j'ai envie de dire. On parle souvent du macaron gerbé.
C'est aussi un souvent. Hein. Oui, techniquement, on dit gerbé, G-E-R-B-E-T.
Et souvent, on parle de ces macarons-là dans le monde des pâtissiers pour qualifier ces macarons parisiens. Il y a bien eu un pâtissier qui s'appelait Gerbé, fin 19e siècle, installé rue du Bac. Mm-hmm. Et il semble avoir déposé une marque Gerbé. J'avoue que j'ai mené l'enquête auprès de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Impossible de retrouver le dépôt de cette marque, mais ça semble quand même exact. Et c'est ce nom qui est resté. Par contre, clairement, la recette a complètement évolué. C'est-à-dire qu'on a une recette de ces macarons type Gerbé de 1909. Ça n'a rien à voir non plus avec les macarons qu'on connaît. Donc, parler de Gerbé, ce pâtissier parisien fin 19e, comme l'inventeur du macaron parisien, ça ne tient pas la route. C'est une recette qui a évolué, sans doute la sienne, peut-être, c'est même pas si sûr, hein, après les noms circulent, au cours du XXe siècle. En fait, je crois qu'on peut quand même reconnaître une importance là, la maison La Durée. J'ai beaucoup échangé. Alors, si on va sur le site de La Durée, ils expliquent. En 1930, le pâtissier parisien Pierre Desfontaines, petit cousin du créateur de la maison La Durée, a eu l'idée ingénieuse d'assembler deux coques de macarons garnies d'une savoureuse ganache. Alors, j'ai beaucoup échangé avec le petit-fils.
Ça, c'est écrit noir sur blanc sur leur site internet. Site, ouais.
J'ai beaucoup échangé avec le petit-fils, en fait, de ce Pierre Desfontaines. Mm-hmm. Et il se trouve que 1930, non, ça ne marche pas. C'est faux, c'est plutôt 1960.
Ah, il y a quand même 30 ans d'écart, c'est embêtant.
Et en effet, il est clair que ce Pierre Desfontaines, qui était à la tête de la maison La Durée, a eu cette idée d'avoir ces deux coques, déjà à base de meringue italienne, légère, et de mettre de la ganache entre ces deux coques. D'abord, sans doute, d'abord au chocolat, certainement, ganache au chocolat, coque au chocolat. Et puis, petit à petit, les parfums se sont multipliés au cours des années 60-70, et ça est devenu un grand produit La Durée, dès ce moment-là, imité sans doute aussi par d'autres. Donc je pense que, en l'état actuel des choses, à la limite, je lance un appel à témoins.
Oui, intéressant.
Je serais vraiment curieux de connaître, j'ai envie de dire, des Parisiens qui auraient connu ces années 60, 70, me dire où ils ont repéré, eux, ces macarons. Parce que Pour moi, à partir de la durée, d'autres, Fauchon notamment, Daloyau sans doute.
On entendait Gaston Lenôtre hein, dans les années 70, puisque Pierre Hermé y a appris une certaine technique de macaron.
Absolument.
À double face.
Mais sans ganache entre les deux.
C'est ça.
Parce
voilà.
qu'il y avait, et ça c'est le dernier point, c'est-à-dire qu'au-delà de l'invention ponctuelle par la durée, c'est aussi des techniques qui se sont développées au cours du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on trouve, dès le début du XXe siècle, l'idée, dans certains traités, que si on met de la meringue italienne, on obtient des macarons plus légers, plus lisses. Donc, cette idée d'incorporer de la meringue, elle est déjà présente avant. Et l'idée de lier deux coques, on la trouve aussi très tôt, dès la fin du XIXe siècle. Soit, finalement, au sortir du four, on accole les deux coques sans fourrage. Mmh. Et c'est ce dont Pierre Hermé parlait tout à l'heure chez Lenôtre, en 1976. C'était encore cette méthode-là. Soit on trouve des coques qui sont notamment liées par de la confiture. Tout début 20e, confiture d'abricot en particulier. On trouve ça très souvent. Donc il y avait déjà ces idées qui étaient là. Après, mon sentiment, c'est quand même que c'est bien en 1960, chez La Durée, qu'on est passé au produit actuel.
Faut-il maturer les macarons? On dit souvent que la magie du macaron repose évidemment sur un jeu de textures, Pierre Hermé l'évoquait, entre le croquant de la coque à l'extérieur et le moelleux, le fondant du cœur du macaron. Est-ce que ça passe par une osmose qui s'opère entre les coques et sa garniture, donc une maturation, l'idée de le laisser reposer un certain temps?
Oui, bien sûr, il faut laisser reposer les macarons un certain temps.
Combien de temps?
Bon, une petite nuit, 24 heures, ça suffit. En général, c'est pour juste que... Enfin, les coques, comme les coques sont pas parfumées, le fait que la ganache, elle, le soit, voilà, ça fait en fait effectivement une osmose entre la coque, la ganache qui va humidifier les coques, et que ça va vraiment faire en fait
le macaron. Donc transfert d'humidité entre la garniture et la coque, mais l'extérieur reste quand même croquant. Dans les vôtres, là, on le voit, quoi.
Oui.
Il y a une petite
pellicule. Ça fait comme un petit coussin, en fait, au milieu, pour ne pas détremper, en fait, la coque.
On a souvent entendu dire qu'il fallait congeler le macaron. Ça, est-ce que c'est un truc d'industriel qui a envie de faire des macarons en très grande quantité? Ou est-ce que ça apporte une vraie valeur ajoutée à la texture finale du macaron?
Ça apporte rien, mais ça n'enlève rien, en fait. Donc, aujourd'hui, vu les productions, en tout cas des grosses maisons, je pense que tout le monde est passé à la congélation. Mais en fait, le problème, c'est qu'on confond aussi souvent congélation, conservation et industrialisation.
Uh-huh.
C'est-à-dire que dans un procès de macaron, on peut passer par étape de congélation et en fait, ça va rien entacher la saveur, la texture, rien du tout. Quoi.
D'accord, mais ça n'apporte pas une valeur ajoutée.
Enfin, un autre sens, non, ça n'apporte pas
une valeur ajoutée. Il n'y a pas de scandale à le congeler, mais il ne faut pas non plus passer par cette étape, si je vous suis.
Non.
Une coque doit avoir une jolie collerette tout autour, et là on le distingue, hein, vous avez vraiment, pour le coup, une surface très lisse, hein, comme un crâne chauve, mais autour, vous avez en revanche une petite collerette. Est-ce que ça c'est voulu? Est-ce que ça apporte quelque chose au moment de la dégustation?
Au moment de la dégustation, par contre,
la fameuse collerette.
Je ne pense pas, parce que en termes gustatifs, ça change rien. Et on le voit d'ailleurs sur les macarons à l'ancienne, il y a pas de collerette. Et
vous êtes en train de détruire toute la magie du macaron.
Désolé. Bon,
c'est vrai, le congeler, mets dans la collerette. C'est quoi, c'est un accident? C'est au moment de la cuisson qu'on s'opère cette collerette.
Faut dire la vérité. Mais en fait, c'est quand on couche les macarons, donc. On couche les macarons. Il y a un temps de croûtage. On appelle ça un temps de croûtage. On le respecte ou pas. Il y a plusieurs débats. Voilà. Tout le monde fait. Nous, on le respecte plus ou moins. Mais en fait, c'est au moment du croûtage où le dessus va sécher. Au moment de la cuisson, en fait, l'humidité va sortir par le dessous. Et c'est là où la collerette va se former, en fait. Mais c'est plus
esthétique,
exactement. C'est qu'en vitrine, c'est vrai que, on va pas se mentir, c'est très joli d'avoir cette grosse collerette, quoi.
Ah, absolument. Mathieu?
Alors, nos auditeurs, ils posent beaucoup de questions, mais il y en a deux qui vous sont adressées, Mélanie et Arnaud Maté. Où est-ce qu'on trouve, d'où proviennent les amandes? Est-ce qu'il y a suffisamment d'amandiers? Est-ce qu'on en plante suffisamment en France?
Alors,
avec tous ces blancs d'œufs, qu'est-ce que vous faites des jaunes?
Alors, non mais on va être très clair. Alors nous, on commence à avoir quand même pas mal de production. Au niveau des œufs, on utilise des blancs d'œufs en plein air. D'accord, mais c'est des œufs qui arrivent, c'est des ovoproduits en fait, tout simplement, pour pas qu'il y ait de gâchis.
Et aussi,
en plus, en termes d'hygiène, c'est vachement important.
Tout le monde, il y a rien de scandaleux en termes d'hygiène. C'est tellement compliqué de partir des œufs avec la coquille qu'on est souvent obligé d'être sur des ovoproduits. Mais là, on vous en fera pas le reproche.
Non, mais exactement. Et pour les amandes de Provence, on a essayé, c'est beaucoup trop gras. En fait, et du coup, on s'est éloigné un tout petit peu, mais on reste en Espagne. En fait, pareil, on source, on est un petit producteur d'amandes espagnoles, voilà, qui nous fait de la super amande, et ça fait largement le taf. L'amande de Provence, on s'en sert pour les praliner parce que c'est très parfumé, c'est très bon. Dans une coque de macaron, on n'en voit pas.
Non, c'est une belle amande en plus, l'amande de Provence, et c'est dommage de mettre ça dans des coques de macaron. Gâché, ouais.
Après, il y a un vrai problème de volume en France, hein, pardon, mais l'amande française, alors elle est en train de regrimper un peu et d'améliorer sa situation. Mais il y a pas mal de projets d'ailleurs, hein. On leur avait consacré une émission, mais l'amande française est très chère par rapport à ses concurrentes italiennes et espagnoles. Et il est vrai qu'on a un vrai problème de volume de production. Le macaron et le verre. Alors là, c'est une sacrée, un sacré challenge qu'a relevé notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Alors, avant toute chose, je voudrais dire un petit mot très rapide d'un livre que j'ai lu, qui m'a enthousiasmé. C'est un livre absolument passionnant, un livre d'entretien avec Jacques Néoport. C'est Hélène Bertin et César Chevalier qui ont mené des entretiens téléphoniques avec Jacques Néoport. Jacques Néoport est un monsieur qui a été l'élève de Jules Chauvet. Jules Chauvet étant le père de ce qu'on appelle aujourd'hui les vins nature. Jacques Néoport a été l'élève de ce monsieur Chauvet. Et il a considérablement contribué à la mise en place de vinification sans soufre chez un certain nombre de vignerons en France depuis 40 ans. Et donc ce livre d'entretien retrace un peu tout son travail depuis de nombreuses années. Ce sont les éditions Le Rouge et le Blanc qui ressortent ce livre d'entretien qui était sorti il y a un ou deux ans. Et donc d'abord, mille merci aux éditions Le Rouge et le Blanc de nous ressortir ce livre parce que pour tous ceux qui s'intéressent au vin, et particulièrement au vin sans soufre, il faut absolument lire et écouter ce que dit Jacques Néoport. C'est souvent un peu différent de ce que l'on entend par ailleurs avec beaucoup de gens qui se réclament de Jules Chauvet, mais qui l'ont probablement un petit peu mal digéré. Et donc, c'est bien d'avoir la source directe. Et donc, juste pour terminer, Le Rouge et le Blanc, un magazine fabuleux pour les amateurs. Vous aurez les coordonnées pour vous abonner sur le site de l'émission. Nous passons donc maintenant sans transition. Nous sommes enjoués aujourd'hui, car nous buvons de l'Anjou.
Et quel Anjou ?
Et quel Anjou ? Alors, on boit un vin qui est une ancienne tradition, une merveilleuse tradition angevine, la tradition angevine du vin rouge de soif. On l'entend teinté dans le verre. Mathieu se verse une bonne rasade de facteurs.
Il en est à sa deuxième rasade.
Il a bien raison.
Non, c'est faux, c'est faux. Je sers tout le monde, je fais le tour de la table.
Il a bien raison. En Anjou, on connaît tous ce magnifique vignoble pour ses immenses liquoreux, ses très grands vins blancs secs. Et il y a aussi une tradition de vin rouge de soif. Arnaud me disait que un de ses vins de soif, un de ses vins de copains, un de ses vins de tous les jours, c'est la version rouge de la cuvée que je suis en train de vous faire déguster, chers amis. C'est donc cet Anjouet rosé demi-sec, un cabernet d'Anjou. Cette tradition angevine du vin de copain, du vin de fruits, du vin gourmand, elle est parfaitement résumée dans ce cabernet sauvignon qui est récolté sur le fil de la maturité pour en faire un vin rosé demi-sec, une belle couleur rosée intense avec des arômes poivrés, framboise, cerise, on a un vrai véritable panier de fruits rouges. C'est la grenadine des adultes, tout simplement.
Et l'étiquette alors, est magnifique en plus.
L'étiquette ne pouvait
que plaire.
Il y a
un peu d'alcool dedans, sinon.
Il y a 11 degrés
oui,
d'alcool.
C'est de l'alcool, genre.
C'est très peu. Donc c'est la grenadine des grands. C'est la grenadine des grands.
Oui, hein, avec modération.
Et oui, elle a du mal, modération. Mais donc, c'est la grenadine des grands. Et c'est Emmanuel Augereau qui fait ce vin et son père Vincent. Vincent et Emmanuel Augereau, le domaine Augereau à Saint-Lambert-du-Latay. Ils font des Anjous magnifiques, ils font des blancs absolument superbes, des grands liquoreux, des très grands blancs secs. Je ne peux que vous inciter à leur rendre visite, à les appeler, à découvrir leur vin. Et puis ils font cette petite gourmandise, cette petite merveille qui s'appelle l'Anjouet. C'est un cabernet d'Anjou, c'est un rosé demi-sec. Et autant vous dire qu'avec un macaron à la framboise, qu'avec même le macaron à la vanille d'Arnaud et Mélanie, c'est un festival en bouche. Ouais. Parce que les 28 grammes de sucre résiduel qu'il y a dans ce vin, ils sont juste là pour faire le lien parfait, sans excès, avec le sucre qu'il y a dans le macaron. Et évidemment, sur la framboise, mais les arômes se rejoignent dans un mariage absolument époustouflant, une symbiose. Voilà, c'est un vin d'une grande gourmandise. On en redemande, on en redemande et on devrait ne le servir
quand même
que en Jérôme Boham.
Oh là là, non mais attendez, Jérôme, arrêtez là.
Jérôme Boham.
Non, non, avec modération et donc, je voilà, le redis bravo, avec infiniment de sérieux.
Bravo, bravo à Emmanuel et Vincent Augereau, qui c'est un domaine absolument formidable. Et allez en Anjou, allez découvrir les vins d'Anjou.
Le prix de la bouteille, vous ne nous l'avez pas donné ou je suis inattentif?
Non, je ne vous l'ai pas donné. On doit être, on est à 7,50€, un truc non. comme ça. Si, si, c'est carrément du bénévolat.
Ah oui.
Enfin, oui. Et on peut en commander, j'imagine.
On peut en commander autant qu'on en veut.
Ça, c'est une très bonne nouvelle. Chers amis, Arnaud et Mélanie, évidemment, on a vu que vous excellez. Et d'ailleurs, je renvoie à tous nos auditeurs à notre palmarès macaron sur franceinter.fr à la page On va déguster. Marion Philippe a indiqué vraiment tous les résultats avec beaucoup de précision. Est-ce que vous vous opposez, j'imagine que non, au macaron créatif? C'est-à-dire qu'on assiste quand même à une grande profusion de macarons à tous les parfums, parfois même 1, 2, 3, voire 4 parfums au sein d'un seul macaron avec différentes couleurs, etc. J'ai même eu l'occasion de tomber sur ce formidable macaron de couleur grise. Donc ça veut dire que vous aussi vous procédez un peu à des macarons créatifs.
En fait, ce qui est plaisant dans le macaron, c'est qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut.
Parfois un peu trop. Hein.
Oui, alors ce que j'allais dire, après, il ne faut pas non plus partir dans des délires un peu trop bizarres, hein, parce que ça ne ressemble plus à rien. Mm-hmm. Mais voilà, quand on reste dans le classique et donc on reste dans des goûts même retravaillés ou avec des choses qui changent, déjà c'est des petites bouchées, donc ça permet en fait de faire des petites expériences. Et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est associer souvent nos pâtisseries avec les macarons. Donc quand on sort une collection de pâtisseries, parfois on fait un peu la même chose en macaron. Voilà, comme ça c'est global.
Parce qu'il faut quand même préciser, d'ailleurs, on va se régaler après l'émission, c'est pas tout à fait le thème de ce On va déguster, mais vous faites également d'excellentes pâtisseries à nous attendre au frigo, là. On va faire un petit rendez-vous. Il y a un macaron qu'on voudrait citer, qui est certainement l'un de vos best-sellers. On est sous le charme de ce macaron de couleur grise, c'est le macaron sésame noir avec sa petite pointe de sel.
Oui, pardon, tout à fait. Alors, c'est un macaron assez clivant quand on le voit comme ça, parce qu'effectivement, il est de couleur grise et ça, on dirait un peu du... Ça fait un peu goudronné, quoi, donc c'est pas très appétissant, on va dire, mais ça fait un moment qu'on le fait, ce macaron. Et en fait, on adore le sésame noir avec Mélanie.
Et rajouter du sel.
Et rajouter de la florissante, en plus, qui rehausse vraiment le goût de ce sésame noir.
Une onctuosité, une sensualité.
Incroyable. Et puis, c'est encore une fois cette petite pointe de sel qui joue les exhausteurs de goût. Loïc Bienassi, une question qui revient auprès de la part de nos auditeurs, qui disent que Loïc a oublié de nous dire que l'ancêtre commun de tous ces macarons, ce serait le massepain. Alors, vous n'avez pas le temps de développer, mais vous êtes d'accord ou pas?
Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des recettes de massepain, mazzepane, en Italie à la Renaissance, mais que toutes les recettes qu'on a soit relèvent du massepain actuel, c'est-à-dire une sorte de pâte d'amande, c'est si ça. On veut, soit des recettes complètement différentes, mais toujours avec de l'amande. Et qu'en effet, il y a cette tradition italienne de l'amande, des gâteaux d'amande, mais ils sont différents des macarons.
C'est ça.
Par contre, dernier point, 19e siècle, on trouve encore des recettes où certains disent « Oh, mais finalement, la seule différence entre le macaron et le massepain, c'est la forme. Ah. » Donc bon, il peut en effet y avoir un flou, mais concrètement, aujourd'hui, c'est quand même radicalement différent.
Merci. La semaine prochaine, pour notre dernière émission du dimanche avant nos émissions d'été, nous vous livrons sur un plateau nos bons plans de l'été avec les chroniqueurs et les chroniqueuses dont on va déguster. À dimanche prochain si vous avez encore faim.